une histoire particulière. 1882, Sarah Winchester a l'esprit tourmenté. Depuis quelque temps, elle en est persuadée, les fantômes des innombrables victimes de la carabine à répétition ne vont pas la laisser en paix. Ils ont fait son malheur en portant coup sur coup son enfant, son beau-père, puis son mari. Le regard égaré, le teint pâle, les gestes saccadés, Sarah n'est plus que l'ombre d'elle-même. Aucun doute, elle est maudite, elle et son argent.
Il y a quelqu'un ?
C'est un labyrinthe, cette maison. Très rapidement, on ne sait plus du tout où on est parce qu'il y a des pièces qui ne donnent sur aucune fenêtre en particulier. Donc on peut être dans une pièce encarapassonnée dans d'autres séries de pièces qui provoquent une sensation un peu curieuse. Il n'y a pas du tout de visibilité sur l'extérieur. Donc on perd assez rapidement le sens de l'orientation.
La maison hantée de Sarah Winchester, deuxième épisode, la contre-enquête. Un documentaire de Céline Duchesnay et Véronique Samouilov. Stéphanie Sauget, vous êtes historienne à l'Université de Tours et autrice de Histoire des maisons hantées. Vous avez visité la maison de Sarah Winchester, qu'en avez-vous pensé ?
La première grande surprise, c'est de découvrir que cet espace que j'imaginais un peu isolé ne l'est plus du tout. C'est-à-dire que tout a changé autour. On est dans cette Californie un peu bling-bling de la côte ouest, entre Palo Alto, San José, on n'est pas loin de la Silicon Valley. Et juste à côté de la maison de Sarah Winchester, il y a une gigantesque autoroute de 6 voies. Enfin, c'est énorme. Et il y a une sortie spéciale pour aller visiter cette attraction. On visite la maison en groupe et on nous indique que c'est pour notre bien parce que si on visitait seul la maison, on pourrait s'y perdre tant elle est grande. Et donc, c'est une visite qui nous amène à observer par nous-mêmes les bizarreries et les mystères de cette maison. Dans mon souvenir, l'une des premières choses qu'on nous donne à observer, c'est deux escaliers et avec des paliers qui n'ont pas tout à fait la même hauteur, et on est tout de suite frappé par la dissymétrie en se demandant mais comment pouvait-elle marcher dans cet escalier aussi petit. Bon, et puis assez rapidement, l'objectif de la visite, c'est de nous montrer les spécificités de cette maison, c'est-à-dire les fenêtres qui ouvrent sur des murs, les portes qui ne donnent sur rien ou sur des murs, des fenêtres qui s'ouvrent également sur le ciel et qui sont positionnées au plafond, des particularités étranges. On va dire que tout est là, mais pas au bon endroit. L'expérience de désorientation, là, elle est totale. Voilà. Et puis, on insiste aussi beaucoup sur ce qui serait la marque de ces superstitions, c'est-à-dire le fait qu'on observe souvent des motifs récurrents. Par exemple, la toile d'araignée, qui est très fréquente sur les vitraux en particulier. On insiste aussi beaucoup sur le chiffre 13, qui serait récurrent dans la construction de la maison. En revanche, aucun mystère. Impossible de faire ressentir une expérience quelconque de hantise dans une visite de groupe où tout le monde est en short et bermuda à prendre des photos. C'est une expérience assez étrange de visiter quand même un espace complètement inhabituel, mais de pas savoir ce qu'on visite en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on visite une maison vraiment élaborée par Sarah Winchester, qui a été une maison gigantesque avec autant de pièces pour une femme seule, c'était évidemment très singulier. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui a été reconstruit, amélioré, transformé pour devenir cette attraction touristique que la maison devient quelques mois après sa mort, en réalité ? En sortant de cette maison, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vu ?
Marie Marie-Jo Ignofou, vous êtes historienne et vous avez publié en 2010 un essai sur Sarah Winchester intitulé « Captive of the Labyrinth », la captive du labyrinthe. Vous avez visité plusieurs fois la maison Winchester. Quelle serait la pièce qui vous a le plus dérangé ?
The gift shop.
C'est la boutique de souvenirs.
I have visited the house and on one occasion, one of the employees.
Un jour, je visitais la maison.
The whole house, not just the tour.
And so, un guide m'a fait faire le tour complet des lieux, pas le circuit tronqué réservé aux touristes, qui est conçu à dessein pour désorienter le visiteur. En réalité, la maison n'est pas aussi labyrinthique que la visitante a le faire croire. Les propriétaires n'aiment pas mon livre. Parce qu'ils cassent le mythe qui attire les touristes. Pourtant, ils ont demandé à tous leurs employés de le lire pour étoffer leurs connaissances historiques. Je ne suis pas vraiment la bienvenue là-bas. Mais tant pis. Je voulais juste donner de Sarah Winchester un portrait plus réaliste.
Une des difficultés importantes tient à l'absence de sources. Il n'y en a pas beaucoup, hein, en fait, des sources.
Stéphanie Sauger.
Elle-même, visiblement, n'a pas laissé de journal intime, ce qui est pourtant très fréquent, en particulier dans cette catégorie de la population, et chez les femmes, qui écrivaient et laissaient beaucoup de journaux intimes. Il n'y a pas eu de récit ou de description de visite de la maison de son vivant. Et en réalité, les discours qu'on a sur sa maison sont des discours de presse, mais qu'il a décrit de l'extérieur. En revanche, ce qu'on sait, c'est que cette maison n'a pas été construite avec un plan d'ensemble originel. C'est une maison qui a été agrandie pièce par pièce, un peu à la fantaisie de Sarah Winchester. Ce qui veut dire que ça ne correspond pas au canon du tout de construction architecturale, et que ça ne correspond pas non plus à ce que faisaient les gens de son rang social lorsqu'ils voulaient se construire une belle maison. Donc elle a voulu complètement prendre en charge la construction de la maison. Et puis la presse a expliqué que la maison a pu faire jusqu'à 7 étages. Il y a une photo, difficile de compter le nombre d'étages sur cette photo, et elle aurait compté jusqu'à 500-600 pièces. Aujourd'hui, elle en compte 160, ce qui est considérable, hein. La Maison Blanche en compte moins. Okay, c'est une maison gigantesque. Étonnante pour une femme seule, qui recevait peu de monde. Elle a juste eu une nièce qui a vécu quelques années avec elle. Et puis, elle semblait pas donner de fête. Elle venait pas, elle faisait pas venir les voisins. Voilà, c'était quelqu'un d'assez casanier et pas très ouvert sur le monde extérieur. Donc, ça rend la construction de cette maison très, très, très étrange.
C'est une maison très particulière. Vous en conviendrez.
I had heard all of the legend
and Marie-Jo Ignofou.
I actually thought it was silly.
Je and connaissais so la légende. I never took anything Je trouvais tout ça ridicule.
Sarah Winchester very seriously. But
Donc je n'avais jamais pris très au sérieux tout ce qui concernait Sarah Winchester. Mais un jour où je travaillais dans un centre d'archives historiques, l'archiviste a attiré mon attention sur un carton de documents déposé par l'avocat de Sarah Winchester et conservé sous son nom à lui. J'ai ainsi découvert 20 ans de correspondance entre Sarah Winchester et son avocat. Et en lisant ces lettres manuscrites sur leur papier d'origine, j'ai constaté que la femme qui les avait écrites était une personne très intelligente, très avisée, qui faisait des placements financiers audacieux. Et je me suis dit, comment est-ce possible? Ça ne cadre pas du tout avec la légende du personnage. C'était un peu comme tirer sur un fil et tout détricoter. Et à mesure que je découvrais d'autres archives personnelles de Sarah Winchester, j'ai voulu peindre un portrait plus fidèle, plus objectif de cette femme qui, malheureusement, a été dénigrée au profit de l'industrie du tourisme qui misait sur les attractions de maisons hantées.
Croyez-vous aux fantômes ?
Philippe Baudouin, vous êtes auteur d'ouvrages sur le spiritisme et vous avez entre les mains une photo. Est-ce que vous pourriez nous la décrire ?
Alors, le visage de Sarah Winchester est assez, assez déconcertant. C'est un de ces jardiniers qui, justement, avait réussi à capturer ce portrait de la propriétaire qui, justement, avait une sainte horreur des photos. Bon, et très souvent, lorsqu'elle apparaissait aux visiteurs, elle était la plupart du temps voilée, habillée de noir. Elle portait le deuil, elle a porté le deuil extrêmement longtemps. Et c'est ça aussi qui, je pense, également a contribué à faire se propager cette rumeur de malédiction, de folie, d'hystérie. C'était extrêmement facile comme jugement à l'époque, ce souhait de pathologiser quelque part son histoire et sa vie.
Sarah Winchester was... Not very tall.
Sarah Winchester n'était pas très grande. Elle mesurait à peine 1,50 m. Elle était brune aux yeux bruns. Un portrait d'elle a été pris à San Francisco dans les années 1870. C'est une très jolie photo. Avec l'âge, elle a développé une polyarthrite rhumatoïde. Elle en souffrait déjà à son arrivée en Californie. C'est l'une des raisons qui l'y avait amenée, à la recherche d'un climat plus sec. Nous le savons car son cocher et son épouse ont expliqué que c'était sur la recommandation du médecin après le décès de son mari qu'elle était partie en quête d'un climat plus bénéfique en Californie. Mais au fil des années, la polyarthrite rhumatoïde l'a rendue infirme. Elle avait les mains, les doigts, les orteils terriblement déformés. D'ailleurs, l'un des artisans qui travaillait chez elle a dit qu'elle lui faisait pitié car elle n'avait pas l'usage complet de ses membres. Au seuil de la vieillesse, elle était déjà en fauteuil roulant.
Je suis peut-être âgée, mais je vous assure que je n'ai pas encore perdu la tête. Je sais faire la différence entre une illusion et la réalité.
En gros, quand vous visitez la maison de Sarah Winchester, l'attraction vous laisse deux possibilités. Soit Sarah Winchester était hantée et elle a construit cette maison pour piéger les fantômes, soit Sarah Winchester était folle. Et comme dans toute bonne tradition fantastique, il faut laisser ouvertes les deux portes. Donc évidemment que l'attraction ne ferme aucune de ces deux portes. Mais voilà, en gros, c'est les deux scénarios qu'on vous laisse imaginer. Au XIXe siècle, dans la littérature en particulier, on a quand même une association très fréquente entre la bonne maîtresse de maison et la bonne maison. Et en revanche, la maison hantée qui est associée à la folle du logis. Hein. Ce qui laisse peu de place à une troisième possibilité, mais qui pourrait être une Sarah Winchester qui trouve une seconde vie, un second souffle en Californie. Donc, elle a pu construire une maison selon son cœur. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, c'était sa maison. Elle l'a construite intégralement de A à Z. Donc, on pourrait imaginer une autre Sarah Winchester qui est une femme entreprenante, moderne, qui a décidé de mener sa vie telle qu'elle l'entendait sans se soucier de sa réputation, qui est assez admirable.
Mary Jo Ignofo, on parle même de malédiction, toujours dans cette légende de la malédiction Winchester. Il y a même d'ailleurs un film qui s'appelle La malédiction Winchester, où on voit que la maison est totalement hantée et que Sarah Winchester elle-même discute et parle avec les esprits. Est-ce que vous avez une idée de quand et comment cette légende est née?
Dès le début, dans les années 1890, quand elle agrandissait ce petit corps de ferme, les journalistes se sont mis à spéculer sur les raisons étranges qui pouvaient la pousser à poursuivre ce projet, qui semblait absurde aux yeux du commun des mortels. Tout a commencé avec cet article de 1895. Et c'est à peu près à cette époque qu'elle s'est mise à multiplier les extensions. Jusqu'alors, la maison semblait normale, quoique grande. Puis c'est presque comme si les articles de presse s'empilaient à mesure qu'elle ajoutait des pièces. Première conjecture, elle doit être superstitieuse. Elle croit que si elle s'arrête de construire, ça va lui porter malheur. Un ou deux ans plus tard, nouvelle rumeur. Si elle cesse de bâtir, elle craint que la mort ne vienne la frapper. Et après, on a prétendu que c'était les esprits des victimes tuées par la carabine qui l'obligeaient à continuer. Les articles se multipliaient dans la presse, les journalistes se plagiaient allègrement, échafaudaient leurs propres théories et en rajoutaient. Finalement, le jour du tremblement de terre de San Francisco en 1906, sa grande tour de 7 étages s'est effondrée, comme d'autres parties des niveaux supérieurs de la maison. Et elle a choisi de ne pas reconstruire. Elle a juste fait déblayer les gravats. Et c'est en partie ce qui donne à la maison ce côté étrange, avec des escaliers qui ne mènent nulle part, parce que les étages supérieurs n'existent plus, ou des cheminées obturées avant d'atteindre le plafond, ou des murs sans plâtre. Elle a décidé de ne pas reconstruire, alors les journaux ont fait courir le bruit qu'elle avait perdu la tête.
One need not be a chamber to be haunted. One need not be a house. The brain has corridors surpassing material place.
Ce qui est aussi frappant dans le cas de Sarah Winchester, c'est qu'il semble qu'une fois le tremblement de terre passé, elle n'ait pas cherché à reconstruire à l'identique ou à reprendre le projet de construction de sa maison. Ça s'est quand même largement freiné et stoppé. Donc on est dans des projets architecturaux qui ont quelque chose d'inachevé. Je pense que ça aussi, ça joue. Un peu inachevé et marqué par la destruction. Cette maison n'est pas dans l'état qu'elle avait conçu. Incontestablement, il y a quelque chose qu'on ne peut pas creuser parce qu'on n'a pas les sources pour accéder à ce qu'elle voulait, elle.
Pour être hantée, nul besoin de chambre, nul besoin de maison. Le cerveau a des couloirs pires qu'un lieu matériel.
Donc vous n'avez trouvé aucune information sur la croyance de Sarah Winchester aux esprits et aucune information sur son sentiment de culpabilité lié aux carabines Winchester.
So number one, gun guilt. Would somebody who feels...
Alors, d'abord, la culpabilité autour des armes à feu. Est-ce qu'une femme, culpabilisée par l'origine de sa fortune, veillerait autant à bien la gérer, la faire fructifier, et finirait par en donner la majeure partie pour créer un hôpital contre la tuberculose, la maladie dont est mort son mari? Comme vous le savez, à la fin du 19e siècle, les Amérindiens, les peuples autochtones, étaient décimés par les maladies ou par, ils diraient, leur génocide dans l'Ouest américain. Et parmi l'arsenal employé contre les Amérindiens, les carabines Winchester tenaient une bonne place. Des journalistes ont supputé que les esprits de ces Amérindiens très reliés au monde spirituel, où les esprits d'autres victimes des fusils à répétition revenaient la hanter parce qu'elle gagnait de l'argent grâce à l'industrie des armes. De là est née la légende sur les esprits qui l'auraient hantée.
The body borrows a revolver. He bolts the door. Le corps s'empare d'un revolver. Il verrouille la porte, overlooking a superior specter, or more, oubliant un spectre supérieur. ou plus encore.
The spiritualism. So, I think spiritualism was very
maintenant,
popular in the last half
le spiritualisme. Le spiritualisme était très en vogue dans la seconde moitié du 19e siècle. Il avait de nombreux adeptes, essentiellement parmi les classes supérieures, chez les riches. Plusieurs raisons me font penser que ce n'était pas le cas de Sarah Winchester. D'abord, elle vivait en recluse. Or, une séance de spiritisme ou spiritualisme, c'est une invitation mondaine. Des gens qui se ressemblent se réunissent pour essayer de communiquer avec les morts. Sarah Winchester n'invitait jamais personne chez elle. Quand on vit seul, on peut méditer ou prier, mais ce n'est pas du spiritualisme. Là encore, à mon avis, ce ne sont que des ragots colportés par la presse.
Je pense que cette femme, si l'on écarte l'hypothèse de la hantise, l'idée qu'elle aurait côtoyé pendant près de 38 ans les spectres, et notamment les spectres d'Indiens, les spectres de ces peuples massacrés, et qu'on conçoit, ne serait-ce qu'un instant, ce projet architectural comme finalement le résultat d'une grande liberté, d'une grande ingéniosité, on peut concevoir l'œuvre de Winchester comme le travail vraiment d'un outsider, on dirait. Presque de l'art brut, parce que il y a cette volonté de rompre avec la normalité, avec la moralité également, les conventions sociales. Bon.
Une des interprétations possibles, celle qui me plaît bien, c'est d'imaginer que elle a voulu refaire sa vie et construire une belle maison qui lui corresponde. Donc je pense que le temps qu'elle y a passé, le fait de ne pas chercher à s'entourer, mais à garder le contrôle sur la création de la maison, ça n'a pas pu se faire sans un peu de plaisir quand même. Ce qui n'est pas contradictoire avec le fait que peut-être, parce qu'elle était en deuil, dévastée, elle a eu besoin d'occupation et que ces femmes qui ne travaillaient pas, qui étaient des rentières, ont pu faire de l'architecture une forme de loisir, pourquoi pas.
C'est un véritable combat presque féministe, il ne faut pas avoir peur des mots, hein, même si c'est quelque part un anachronisme pour l'époque. En tout cas, cette volonté de battre en brèche complètement cette mainmise d'une forme de domination masculine dans le domaine architectural, et c'est sa propriété, c'est l'œuvre de son esprit aussi, véritablement c'est sa maison.
Madame Winchester.
C'est la maison d'une femme à une époque où même dans les hautes sphères, les femmes ont peu de pouvoir en réalité. Or elle est immensément riche, elle fait des affaires, c'est une entrepreneuse et en même temps c'est une créatrice discrète. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à fanfaronner dans la presse. Donc c'est visiter une demeure qui quand même représente une femme singulière et une femme moderne, probablement très libre, mais ne cherchant pas à attirer l'attention.
Il y a tout un ensemble de systèmes hydrauliques, thermiques, électriques qui permettent de définir cette maison comme vraiment une prouesse en termes architecturaux, techniques. On sait qu'il y a effectivement plusieurs salles de bain. Bon, déjà, c'est plus qu'un luxe à l'époque. Il y a un chauffage qui est permis par un système assez savant d'air pulsé. Il y a toutes ces lampes à gaz à bouton pression aussi. Et puis, ces ascenseurs. Je crois qu'il y a 3 ou 4 ascenseurs électriques, hydrauliques, un système de plomberie extrêmement complexe. Donc, une grande modernité qui en fait vraiment un édifice avant-gardiste, je trouve.
Selon vous, Mary Jo Inyofo, pourquoi est-ce que Sarah Winchester dérangeait?
One is
D'abord parce qu'elle ne s'est pas cantonnée au rôle assigné par son genre. Des recherches nous montrent qu'à l'époque, il était acceptable pour les femmes de faire don de leur fortune, d'être philanthropes, mais les femmes qui investissaient et gagnaient de l'argent étaient considérées comme masculines. Autre chose, elle se moquait apparemment du candidaton, ce qui la rendait originale. On le sait grâce à la famille du régisseur du domaine. Ses fils étaient nés, avaient grandi sur le ranch, et l'un d'eux a raconté que Sarah Winchester se riait de toutes ces histoires de fantômes et de superstitions, et qu'elle se fichait de ce que les gens pensaient d'elle. Mais il y a autre chose. Si elle avait été l'héritière de l'empire de la machine à coudre, inventée à la même époque que la carabine, aurait-on insinué qu'elle était hantée par les fantômes des ouvriers de la confection? Je ne crois pas. Je pense que ça reflète l'ambivalence des Américains par rapport aux armes à feu. Dans la culture américaine, cette ambivalence est encore très prégnante. C'est le signe d'un malaise, symbolisé par le personnage de la veuve Winchester.
Sarah Winchester meurt le 5 septembre 1922 dans sa maison de Saint-José. À sa demande, son corps est transféré à New Haven, sa ville d'origine. Elle y est enterrée aux côtés de son mari William et de sa petite-fille Annie. La pierre tombale sur laquelle sont gravées une croix et des feuillages entremêlés rassemble leurs trois noms. New Haven, c'est aussi le lieu où se trouve l'hôpital auquel la discrète Sarah Winchester a fait don de millions de dollars anonymement durant des années. Elle souhaitait que la tuberculose, maladie qui avait emporté son mari, puisse être combattue. Cette annexe de l'hôpital, la William Winchester Annex, existe encore aujourd'hui. Comme l'écrit Marejo Ignofo dans son livre, plus que la maison de San José, c'est bien ce lieu hospitalier qui aura été la véritable grande œuvre, hélas méconnue, de Sarah Winchester.
J'ai fini par éprouver pour Sarah Winchester un sentiment exprimé par la plupart des guides qui ont fait visiter sa maison au fil des années. Une véritable tendresse, une forme d'admiration. Cette femme a pu sembler bizarre, excentrique, mais je crois que c'était surtout une personne profondément intéressante.
Avec Mary Jo Ignofo, Stéphanie Sauget et Philippe Baudouin. Traduction, Eve Dare. Lecture d'un poème d'Emily Dickinson, Rachel Zerner. Merci à Olivier Morvan. Prise de son Alexandra Bergel, Claude Niort et Sébastien Royer. Mixage Olivier Dupré. Attaché de production Sylvia Favre. Documentation Anne-Lise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Coordination Christine Bernard. C'était La maison hantée de Sarah Winchester, second épisode La contre-enquête, un documentaire de Céline Duchesnay et Véronique Samouiloff.
C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie, une grande traversée de Matteo Caranta et Anne-Thérèse Franchini sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.